calme quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas d'orage. On peut installer sa tente, j'allais dire, un peu avec négligence. Parce que de toute façon, quand tout va bien, les choses sont faciles à vivre. Et puis, nos vies rencontrent des difficultés, des épreuves. La tempête arrive. Et là, les tentes qui étaient mal accrochées, les installations qui étaient mal pensées, eh bien là, sont balayées. Wow. Jésus, au cours d'un enseignement qu'il avait avec les disciples, où arrivait un orage, leur avait parlé de ça pour les maisons qu'ils construisent, d'une maison qui était construite sur le sable et d'une maison qui était construite sur du rocher. Alors, bien sûr, nous sommes là en attente. Peut-être aurons-nous un orage comme celui qui a eu. Et normalement, les orages d'aujourd'hui vont être plus forts que ceux d'hier. Hein? Le front froid qui arrive, de l'air froid arrive, il y a un air très chaud ici. Et on le sent, on sent déjà une moiteur qui est là. Et donc, voilà. Et des orages plus violents que ceux d'hier vont arriver sur notre région. Météo nous le dit. Météo France nous le dit avec son travail scientifique. Alors bien sûr, le département fait 100 km, alors il y aura des chanceux qui passeront à travers. Mais il y en a des autres qui seront dedans. De toute façon, il y en a qui seront dedans. Est-ce que parce qu'on est chrétien et parce qu'on prie de ne pas avoir les orages, est-ce que les orages ne nous tomberont pas dessus? Oh. Alors ça, vous savez... Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Dieu a laissé le monde se faire. Hein? Est-ce que nous sommes ici présents à l'abri dans 15 jours de l'annonce d'un cancer? Est-ce que nous sommes à l'abri en rentrant d'un accident grave? Pensez, réfléchissez, soyez conscients. C'était toujours la parole et de Jean-Baptiste et de Jésus. Et donc Dieu n'a pas de baguette magique. Il a fait aujourd'hui Homo sapiens sapiens. Sachant, c'est sapiens sapiens. Il a une conscience, il a une réflexion. Et alors, dans l'aventure, hier, nous sommes arrivés... Hier, dans cette aventure où il y a un homme charnel, un peu avec nos images, qu'on appelle le vieil homme, et qu'on pourrait appeler la chenille. Et puis, il y a un homme nouveau, un homme spirituel. Cet homme spirituel correspond à toutes nos aspirations intérieures. Le rêve de nos vies. L'aspiration profonde à être soi, à prendre sa place dans notre vie. Cette image que j'aime tant d'habiter, de remplir son pyjama, de prendre sa place dans ses vêtements, de prendre toute sa dimension humaine et aussi d'apporter au groupe dans lequel nous sommes tout ce que nous pouvons lui apporter et ainsi apporter à l'humanité ce que nous pouvons lui apporter. C'est ça l'homme spirituel, l'homme nouveau. Et toute l'aventure du passage de l'un à l'autre, c'est ça d'être des oins, d'accueillir et d'accepter l'onction de l'Esprit-Saint. Alors quand on va se dire chrétien. C'est-à-dire, le chrétien, c'est celui qui accepte d'entrer dans l'onction de l'Esprit-Saint. dans la mouvance de l'Esprit Saint, qui accepte de ne pas rester seul à faire sa vie, à se débattre dans un monde incroyable, mais qui, faisant l'alliance avec ses origines, va vers où il doit aller, la vie spirituelle. Et alors, l'aventure de la vie spirituelle, c'est comme dans l'aventure de la vie ordinaire. Nous sommes confrontés à des épreuves, parfois graves. En tout cas, nous n'échappons pas à cette chose qui va passer, qui passe continuellement, et qui sont d'une certaine manière là pour nous apprendre qu'il y a une grande épreuve qui nous attend tous, qui est celle de notre mort, qui est notre deuxième mutation, notre deuxième métamorphose. Moins on a travaillé à sa première métamorphose, moins on est préparé à sa deuxième métamorphose. Celui qui est entré dans la première métamorphose du passage du vieil homme à l'homme nouveau fait son passage dans l'autre métamorphose avec grande facilité et il vient en aide à celui qui travaille et travaille et travaille sans cesse pour faire des collaborateurs, des partenaires pour amener au bonheur des multitudes. Et donc, nous ne sommes pas à l'abri. C'est-à-dire, nous ne sommes pas à l'abri, en effet. Tout se passe normalement à la maison, et puis vous avez un de vos enfants qui vous fait un clash. Est-ce qu'il va recevoir sa baffe? Est-ce qu'il va avoir droit à une colère rouge? Simplement fruit des réflexes de notre enfance, que nous avons été agressés, que devant ça se réveille en nous un univers de violence, de volonté de rendre justice à ceux qui ne nous l'ont pas, qui n'ont pas été bons avec nous. Et qui c'est qui va prendre? Cet innocent qui apprend le monde. Est-ce que nous allons être comme ça? Est-ce que au jour où notre voisin va nous faire une crasse, une vraie crasse, nous allons entrer dans cette violence de répondre à la crasse par une autre crasse. Étant sur l'autoroute, et il y en a un qui me fait une queue de poisson ou qui ne veut pas me laisser passer, comment vais-je faire? Et puis c'est l'annonce, en effet, ça ne va pas bien, l'annonce d'une maladie grave. Comment est-ce que je vais réagir à cela? C'est à ces moments-là que se mesure notre onction, l'Esprit Saint. J'ai beaucoup appris, moi, j'ai eu la chance d'être au pied de Vinoba Bhave, le premier fils spirituel de Gandhi. Et je suis resté là à le regarder. Il n'y avait pas de grande action non violente au moment où j'étais là, et je suis resté presque 3 mois dans l'ashram à le regarder, à l'écouter. Et Vinoba disait, la non-violence vous tombe dessus à un moment où vous ne l'attendez pas. Comment allez-vous réagir à ce moment-là? Et alors lui, il y avait une tradition indienne, c'est que dans les prisons indiennes du temps de Gandhiji, pour être un supplément de difficultés pour les prisonniers, on ne leur salait pas leur nourriture. Une nourriture insipide. Et Vinoba savait qu'il allait passer une grande partie de sa vie en prison. Alors, il disait, je m'exerce, je ne mange très très peu de sel. Parce que si j'ai peur de ne pas avoir de sel, peut-être je vais éviter d'aller en prison. Et donc je m'exerce. Je m'exerce aujourd'hui. Est-ce que nous nous exerçons pour les temps difficiles? Pour le moment où vos enfants vont vous répondre? Pour le moment où vos voisins vont être violents envers vous? Parce que vous savez, cette parole terrible, c'est à rendre le mal au mal, est simplement dans un processus de justice. Œil pour œil, dent pour dent. À ce rythme-là, l'humanité va vite être aveugle. Voilà, c'est ça la vie spirituelle. C'est se préparer pour les jours difficiles. Parce que quand tout va bien, vous savez, quand tout va bien, c'est facile. Quand le ciel est bleu, que la mer est verte, qu'il n'y a pas de problème. Quand on est dans le début de son, de sa relation de amoureuse, hein, les dérives de nos couples, hein, usant progressivement le capital de départ et n'ayant pas investi dans le travail, dans un travail vraiment douloureux, difficile de relation. Voilà. Donc la vie spirituelle est notre thème d'aujourd'hui. C'est donc... Ton amour est la vérité qui nous fait vivre. Il s'agit de vivre, hein, et de vivre pleinement, intensément. Et vous vous souvenez de ce terme, qu'est-ce que c'est que le péché ? Ce n'est que de rater sa vie. C'est de rater la cible. C'est de rater votre bonheur. À chaque fois où vous êtes... Oh non, on n'a pas le temps. Oh non, laisse faire. Où le temps passe. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle bibliquement le péché. Le péché, c'est l'anti-bonheur. Hein, souvent, on a une espèce de vision inverse. On se dit, ah, là où il y a vraiment du péché, il y a sûrement du bonheur. Hein. Non, non, c'est vraiment... J'essaye de rejoindre mon texte quand même pour que je ne laisse pas tout cela à l'abri. Bien. Je dis. Voilà. Nous y sommes. Et donc, il s'agit de vivre. Et pour vivre, de toute façon, nous vivons sur de la vérité. Parce que nous, toutes les actions que nous mettons en œuvre sont issues d'un processus de conviction. Nous agissons selon des convictions. Et ces convictions, nous les trimballons soit dans des processus acquis génétiquement, par la longue expérience de toute la création, qui est inséré en nous, de grands réflexes, hein, ne serait-ce que manger quand j'ai faim, c'est un réflexe que nous avons appris, et d'autres réflexes beaucoup plus subtils. Hein, on a appris, on commence à apprendre, même dans nos gènes, que la violence, terrible, d'aller tuer l'autre, n'aboutit à rien, les vendetta ne servent de rien, que de détruire et de détruire et de détruire. Et ça, on perçoit, on commence à le percevoir, ça nous vient du dedans. Donc, nous agissons selon des vérités. Et la grande problématique que nous avons, si nous voulons vivre en conformité à ce qui nous donne la vie, il va falloir aller cueillir, chercher la vérité, travailler pour acquérir la vérité. Est-ce que nous allons être des hommes dont Jésus appelle qui ont une micro-foi, c'est-à-dire une micro-vérité nouvelle? Ou bien allons-nous être capables d'être nourris par les gènes nouveaux qui est la parole évangélique? Ça, c'était... Donc, j'aimerais parler avec vous de ce qu'on va appeler... les incontournables de la vie spirituelle. Et donc, pour vivre, une des premières choses, c'est que pour vivre conformément à l'appel qui est à l'intérieur de nous, il faut chercher la vérité. Et chercher la vérité, c'est un travail intense de réflexion. Nous sommes des hommes qui sommes corps, âme et esprit. C'est comme ça. Hein? Comme vous êtes faits, nous sommes faits de jambes, de bras, d'estomac. Voilà, nous sommes faits aussi totalement homo sapiens sapiens, d'un corps, d'âme, c'est-à-dire de tout ce qui est lié à cette vie à la fois intellectuelle et affective. Et nous sommes aussi un être qui a besoin de cette chose qu'on appelle le spirituel, d'un lien avec sa source, d'un lien avec sa source. Et donc, un des premiers points fondamentaux, si l'on veut véritablement donner à notre chenille les éléments pour pouvoir faire sa transformation en papillon, il faut lui en donner les moyens, c'est-à-dire les gènes nouveaux. C'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Et je vous disais en démarrant cette semaine, quelle est la place du petit livre dans vos vies? Quelle est la place de l'Évangile parmi les lectures que vous avez? Et des livres qui se rapportent à l'Évangile. Hein, que, bien sûr, il n'y a pas que l'Évangile, mais c'est justement parce que depuis 2000 ans, des hommes habités par l'Esprit-Saint donnent livres à l'humanité par ces bibliothèques extraordinaires de vérité que sont les livres. Hein. Il n'y a pas que de la vérité dans les livres, mais en tout cas la vérité, beaucoup de la vérité des hommes y est. Hein. Et donc, comment est-ce que nous nourrissons? Donc, hein. Alors bien sûr que beaucoup de choses sont intéressantes, énormément de choses sont intéressantes, mais quelle est la place du petit livre? Il n'y a essentiellement, c'est le petit livre qui permet d'avoir les gènes, les bons gènes, pour faire la mutation chenille-papillon. Donc, ça, c'est un premier point incontournable. Et vous vous souvenez, quand je reviens sur les incontournables, hein, cette parole fantastique de Jésus avec Marthe et Marie. C'est un passage que vous connaissez presque tous, ou en tout cas, à une affaire de Marthe et Marie. Vous vous souvenez, Jésus, Marthe et Marie sont des amis de Jésus, qui ont un frère aussi, qui s'appelle Lazare. Et puis, il y a Marthe et Marie, à un moment donné, il est chez elle, et puis il y a Marthe qui est enclenchée d'en faire plein de trucs, elle fait plein de trucs, elle court tous azimuts, elle fait plein d'affaires, tout ça pour, et même pour Jésus, elle voudrait tellement que ce soit bien, cette soirée. Et puis, il y a Marie, elle, qui est là continuellement et qui en profite, parce que Jésus est là pas pour longtemps, parce qu'il va bientôt mourir. Il n'est pas là pour longtemps. Et alors, Marie est là, elle écoute toutes ces petites choses que Jésus dit, parce que Jésus ne disait que des petites choses. La vie courante, tout ça. Et Marie est là, elle écoute. Et à un moment, Jésus ne peut pas, et il appelle Marthe. Marthe! Maître, oui, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu t'agites tellement? Alors sûrement qu'elle dirait, mais pourquoi tu dis pas, elle a envie de dire, mais pourquoi tu dis pas à Marie de venir m'aider? Ça irait plus vite. Et Jésus lui dit, mais attention, il y a des problématiques. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Si dans votre journée, il y a plein de choses à faire, quel est l'essentiel? Dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, il y a beaucoup de choses à vivre et à faire. Quel est l'essentiel? Dans notre vie de voisinage, de quartier, il y a beaucoup de choses, il y a toutes sortes de choses. Quel est l'essentiel? Ça, ça va être la grande, grande affaire de Jésus. Nous sommes des homo sapiens sapiens. C'est-à-dire, nous avons la conscience. Et la grande affaire qui nous guette tous, c'est l'oubli. C'est l'oubli que notre vie, c'est de passer de chenille à papillon. La chenille a tellement de choses à faire. Vous vous rendez compte, elle a un chou entier à manger. Et elle ne pense plus, elle oublie régulièrement qu'elle doit devenir papillon. C'est ça son bonheur. Et il y a tant de bonheur passager. De cette, oh, y a cette, elle est d'une beauté, cette feuille-là. Ce concert. Cette invitation avec des amis, cet échange, cette visite, cette... Oh, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller au monastère. Mais est-ce que tout cela ne va pas prendre sa vraie valeur quand ce sera positionné dans la vraie position intérieure de l'essentiel? Est-ce que l'on a oublié? Pourquoi est-ce que je vis? Et quand on se pose cette question-là, ce n'est pas une fois par an de se poser la question « Pourquoi est-ce que je vis ?» Pourquoi est-ce que je vais au travail? Pourquoi je prépare à manger? Pourquoi je fais ma maison? Pourquoi je vis avec cette femme? Pourquoi je vis avec cet homme? Qu'est-ce que j'ai à vivre avec mes enfants? Et en toute chose, et c'est ça le grand mystère, en toute chose, c'est le lieu de la transformation de ma chenille en papillon. C'est le lieu de mon bonheur. Mon bonheur n'attend pas. Et c'est là où Jésus disait, mais c'est tellement simple. Et ça tarde, et ça attend, et ça attend. Ah, plus tard, plus tard, plus tard. Eh oui. Aujourd'hui. Alors voilà, c'est incontournable. Je vous disais, un incontournable, ce pilier dans la vie, la référence, la volonté de se mettre en lien avec cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. Germe nouveau, parole de Dieu. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est très compliqué, vous savez. Vous le savez bien d'ailleurs. Tant qu'on est en conflit profond avec soi-même. Conflit profond avec ses origines. Eh, parce que c'est comme ça, on pousse sur ses origines. Et ce qu'on va déployer, ce sera à nos gènes, c'est comme ça. Il y a besoin de se réconcilier. Et vous le savez, et de se réconcilier avec Dieu est une chose fondamentale. Il vous demande pardon. Il est à vos genoux. Il est à nos genoux. Que vous allez rester debout. Alors, donc, c'est premier incontournable qui est là. Et puis, dans ces autres incontournables, bien sûr, il y a ce lieu qui va être ce lieu de ressourcement, ce lieu où on va tenter de chercher cette vérité qui fait vivre. Hein, et on sait que cette vérité qui fait vivre, c'est de goûter à cet amour, puisque c'est son amour qui est la vérité qui nous fait vivre. Et tant que nous ne goûtons pas à cet amour-là, eh bien nous le cherchons, et parfois nous le cherchons dans toutes sortes de lieux où il n'y en a, où il n'y en a pas beaucoup. Hein? Parce qu'aussi, alors notre grande aventure, puisque c'est une aventure aussi, hein, on peut prendre, c'est l'aventure d'un voyage, hein, d'un chemin, Nous sommes passants et pèlerins, hein, disait une prière de Lanza del Vasto. Nous sommes tous passants et pèlerins. Mais où allons-nous? C'est ça la grande affaire. Si nous n'avons pas devant les yeux, j'allais dire notre objectif. Quand vous êtes venu à Vacances Évangiles, quand nous sommes venus à Vacances Évangiles, si nous n'avons pas clairement en tête ce point qu'est les Tayadis, si on n'a pas clairement ça en tête, comment va être notre parcours? Je suis sûr qu'entre nous qui sommes là, nous sommes tous venus aux Tayadis et nous avons pris toutes sortes de chemins. Ça, c'est l'heureux et bienheureuse aventure des enfants de Dieu. Mais si nous n'avons pas clairement vu que c'était ici que nous étions attendus, nous nous perdons. Et c'est ça le péché. Et donc, un point fondamental, c'est toujours d'être bien sûr, mais où je vais? Alors, on a beaucoup travaillé sur notre « d'où je viens ?» Qu'est-ce qui est en moi? Pourquoi cette inquiétude? Mais vers où je vais? C'est fondamental. Et il y a un grand travail, c'est celui de l'oubli. Et j'oublie. J'oublie tous ces moments où j'ai su où je devais aller. Et puis repris par blablabla, et j'oublie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça fait déjà 15 jours, je n'ai pas pris un seul moment pour me retrouver profondément. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu un échange profond avec, dans son couple. Mon Dieu, l'oubli. Et puis j'avais reçu des paroles intérieures. J'avais reçu des paroles qui m'affermissent. Hein, quand vous recevez une parole intérieure qui vous confie, qui vous donne de la vie, si vous en recevez, mais vous en recevez beaucoup. Et puis ces paroles-là, qui sont votre trésor, c'est vos gènes nouveaux, ces paroles-là reçues. Oh, ben voilà, oui, c'est une espèce de perle que je reçois, un diamant que je reçois, une pépite d'or que je reçois, et puis ben, la vie fait que... Oh, mais où est-elle donc? Et je ne sais plus que je suis une pépite, que je suis... et que j'ai reçu beaucoup. Et alors, au jour de la détresse, au jour où les attaques viennent, les agressions viennent, sur quoi vais-je pouvoir tenir? Les pépites d'or, les diamants sont faits pour tenir, parce que ces pépites d'or, c'est « Tu es mon fils bien-aimé. Tu n'es pas le fruit du hasard. Je t'entraîne. Oui, le cheval blanc est victorieux. » Il y a des paroles que vous avez comme ça. Et ces paroles-là, eh bien, il faut les garder. Je n'allais pas dire qu'il faut astiquer votre or, mais il faut s'en occuper, il faut être là, il faut le garder. Les diamants que vous avez reçus, ce sont vos gènes nouveaux. Hein? Donc, ce qu'on a reçu, ça, c'est la mémoire. Hein? Faire mémoire déjà de tout cela. Ne pas être oublieux, ça, on voit ça dans l'Évangile, ne pas être oublieux. Alors, pour ne pas être oublieux, on fait ce qu'on dit à trucs. Hein, on écrit déjà, alors l'écriture, vous avez vu hein, maintenant ce souci de l'écriture. Nos ancêtres ont découvert l'écriture. Et ça leur a fait faire des bons pour que nous soyons plus heureux aujourd'hui. C'est certain. Alors, on va écrire. On va se faire des notes. Eh tiens, allez, si je collectais toutes ces paroles fortes que j'ai reçues et qui me font vivre, alors on va les noter. Et on va les revoir. Et on va les reprendre. Les notes de vacances évangiles, peut-être vous allez les reprendre. Certains les reprennent. Et ils nous témoignent, ils disent, ça nous fait du bien. Hein? Parce que, la mutation dans la plénitude de notre bonheur, qui est notre identité, ne se fait pas par coup de baguette magique. La conversion n'est pas qu'une illumination. Ouais, ça y est, j'ai la foi. Maintenant, je peux me laisser aller sur la lancée. J'ai reçu ma pichenette. J'avais une pichenette initiale pour me donner la vie. Maintenant, j'ai la foi, j'ai une pichenette seconde et là, pas de problème. Non, c'est une graine qui est en terre. Et beaucoup, et vous le savez, Jésus parle de ça, hein, de ces graines qu'on plante. Et puis, ben, y en a qui poussent et qui poussent et qui portent, qui vont au bout de ce qu'ils peuvent porter. 30, 50, 100, selon. Et puis, il y en a qui continuent à être petits, petits. Hein. Alors, donc, ne pas être oublié. Donc, alors, et alors, là-dessus, hein, dans ce travail des incontournables, j'allais dire, de la vie spirituelle, puisque nous sommes en recherche de la vérité, il y a tout ce travail de la recherche de la vérité. Un travail intellectuel nécessaire. Lecture, hein, réflexion, hein, et de temps de solitude. Hein. Si je passe 99,9% de mon temps happé, embarqué dans toutes sortes de choses, on voit qui nous montre l'exemple si ce n'est l'homme. Vous ne croyez pas que Jésus avait beaucoup de choses à faire. Énormément de choses à faire. Un monde à ensemencer. Et régulièrement, il se retirait à l'écart pour aller goûter à la source, revoir où est-ce qu'il devait aller, pour vérifier qu'il devait dire oui ou elle devait dire non. Souvent, Jésus disait non d'abord, quand on le sollicitait. Non, non, je n'ai pas le temps. Non, non, j'ai... Et puis, ah, oui. Et parfois, il disait oui et il disait non après. De discernement. Hein, discerner. Oh, tac. C'est ça notre grande affaire. Nous sommes des homo sapiens sapiens. Nous avons la conscience. Nous avons la conscience du but, nous avons la conscience de l'où nous sommes. Et nous allons vers là où nous avons, et la Bertinière dit souvent, là où nous devons aller. Non pas dans un devoir qui nous serait venu de l'extérieur, parce que c'est le devoir intérieur de notre être qui pousse et qui aspire à se déployer. Et donc, on a cette grande affaire. Alors aussi, ben, dans cette transformation de la chenille en papillon, il y a quelque chose de délicat, très délicat, qui se met en place. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Un mot, oh mon Dieu, hein, que faire de ce mot-là, l'obéissance. Alors, quand moi je travaille, je réfléchis sur cette affaire de l'obéissance, de toute façon, je me dis, de toute façon, on obéit à quelque chose. On obéit soit à des pulsions, on obéit à des injonctions anciennes, on obéit. Tous ceux qui ne veulent pas obéir pour être libres, réfléchissent. On obéit. Et donc, en cela, il est important d'aller chercher à quoi obéissons-nous? Qu'est-ce qui nous fait agir? Et donc, ce phénomène d'obéissance, et moi la grande obéissance à laquelle je vous invite, c'est de la fidélité à vos intuitions. Et comment naissent nos intuitions? On l'a vu, elles sont liées avec la parole, avec la profondeur des relations. Hein? On peut avoir beaucoup, beaucoup de relations et très peu de relations profondes. Hein? Et c'est là que nous viennent les intuitions. En plus, alors là, il faut faire extrêmement attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Hein? C'est-à-dire de prendre pour des intuitions des espèces de bulbes, hein, les uns et les autres. Nos cerveaux sont faits de telle manière, les uns et les autres, qu'elles sont tellement différentes, et notre cerveau est capable d'engendrer toutes sortes de bulles, d'idées que l'on peut croire être des intuitions. Hein? Et là, eh bien, il faut un travail intense pour pouvoir vérifier nos intuitions. Là aussi, par chance, Il y a des hommes qui ont frayé des chemins. Hein? On a la chance hein, que eh bien, ces hommes de cette grande lignée, hein, des Freud, des Jung, des Lacan, de André Rocher, qui se sont attelés à essayer de comprendre, quand ces bulles nous montent là, comment faire pour comprendre. Hein? Vous savez que l'analyse PRH est un outil que nous aimons beaucoup, beaucoup. Hein? Qui permettent justement de vérifier, de percevoir presque tous mes enseignements démarrent d'analyse. Une intuition qui me vient est de me mettre à écrire et d'essayer de peser, de voir, etc. Quoi. Hein? Ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Et pour ça, ben, sûrement, il faut se former. Il faut se former. Hein? Vous le savez, hein, ça fait partie de nos axes à nous, de Vacances Évangiles, hein, et de ce que nous faisons. C'est que pour entrer dans le déploiement de ce papillon que nous sommes, il y a nécessairement un travail sur l'homme que nous avons à vivre. Toutes les découvertes de la psychologie hein, sont indispensables aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin que nos pères. C'est un travail nécessaire. Ce n'est pas fait que pour les malades. C'est d'abord fait pour les bien portants. Et c'est heureusement fait pour ceux qui ont des difficultés à vivre. Donc ça fait partie, je crois, des incontournables de la vie intérieure. Analyser ses intuitions. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Et puis un incontournable de cette croissance là aussi, c'est que cette croissance là où nous allons, là où d'où nous venons et là où nous allons, il s'appelle l'amour. Et donc, nous sommes appelés à avoir des relations profondes, intenses. J'allais dire infiniment respectueuse, parce que ce qu'est d'abord l'amour, c'est un infini respect. C'est-à-dire que l'autre existe pour lui-même et qu'il est beau. Et c'est comme ça, hein, l'aventure dans laquelle Dieu nous a embarqués, c'est que la première cellule où ce mystère doit se manifester, à se manifester, ce sont nos couples, ce sont nos familles. S'il y a un monde à transformer, il est d'abord dans nos familles. Le monde, le mystère du christianisme commence là. Hein. C'est ici et maintenant que ça se passe. Hein, Jésus va dire à un moment donné, mais pourquoi vous allez essayer de faire des prosélytes partout à travers le monde, convertir des tas de gens partout, alors que votre cœur n'est pas net? Ça se commence là. Donc, un deuxième incontournable, un autre incontournable, hein, je ne sais plus où j'en suis de mes numéros, hein, mais qui est vraiment que le lieu où ça se passe, là où nous avons un laboratoire formidable pour mettre en œuvre nos convictions fondamentales. Nous avons un prochain absolument différent qui est là et que nous avons choisi pour vivre. Hein. Je parle de couples qui sont là aujourd'hui. Hein. Et où, en tout cas, j'imagine, beaucoup des célibataires qui sont là, pour l'essentiel, hein, la vocation, l'appel au mariage est là. Hein. D'autres ont une autre vocation. Parfois, le handicap de ne pas trouver, de ne pas se mettre en route, de ne pas trouver une âme sœur. C'est ça, c'est autre chose. Et d'abord, il faut bien clarifier ce que c'est que cette famille, cellule première de la vie ordinaire. Hein. Mais dans le mystère chrétien, dans le mystère de la vie dans l'esprit, il est un lieu d'application du royaume, c'est ce lieu-là. Les familles ont à devenir progressivement des lieux où il y a le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu commence entre un homme et une femme. Et vous savez, j'en sais quelque chose, je vous l'ai dit. 35 petites amies. Et je choisis une femme. Les tentations de penser que des multitudes de celles qui sont autour de moi, comme les vaches avec leurs champs, l'herbe est toujours meilleure à côté. Comment faire, si ce n'est que cette radicalité de convertir mon œil et de voir celle qui est à mes côtés belle, étonnamment belle, de plus en plus belle, plus je la vois dans sa beauté. Plus je lui dis la beauté que je vois en elle, et plus elle devient belle. C'est difficile, c'est très difficile. Parce que le vieil homme est un homme qui critique tout le temps. Le vieil homme critique tout le temps. Le vieil homme médite tout le temps. La première parole qui va venir au vieil homme, c'est « Mais t'as pas fait ça ?» Ben dis donc, c'est « Regardez, observez-vous, observons-nous. » La manière dont nous allons parler des autres, dont nous allons parler des choses. Pauvre homme politique, pauvre gouvernement, pauvres élus, pauvres voisins, pauvres enfants, que reçoivent-ils comme cadeau or précieux d'un regard qui leur montre la manière dont Dieu les voit? Tu es belle. Bravo pour ça. Et bien sûr qu'il y a des limites. C'est évident. Et alors là, on se retrouve avec Jésus. Et que lui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et il en est un qui reste, qui peut lui lancer la première pierre. Et que fait-il? Oh, femme. Oh, femme. Que tu es belle. Ne t'égare plus. Donc ça, c'est un point fondamental. Alors, d'une manière ou d'une autre, alors je dirais presque aujourd'hui un incontournable de la vie spirituelle, c'est d'avoir une relation profonde, de pouvoir se parler en profondeur, dans un lieu de respect. Alors, ceux qui nous connaissent bien, on parle du partage de couple avec une méthodologie pour essayer de... Mais c'est tout ça, mais ça n'empêche. Ça n'empêche. Vous savez que les hommes cherchent partout, et ça c'est merveilleux, c'est que je suis trouvé. Vous savez, j'étais pendant des années dans un milieu un peu marginal par rapport au monde, parce que je pensais que le monde était un peu perdu, parce que j'étais monté dans une arche. Une espèce de lieu un peu à part, en disant que le royaume de Dieu fallait le construire, et qu'il avait des mœurs à part, et qu'à côté, ils étaient perdus. Il n'y avait rien de bon, ou peu de choses de bon dedans. Et puis j'ai vu que dans notre arche, on ne faisait pas mieux que dans le monde. Progressivement, les dissensions, les difficultés, les problèmes ont surgi. Il faut apprendre vite, vous savez. Il ne faut pas arriver à 80 ans en se disant « Oh mince alors, j'ai dormi !» Non, vite, on réagit, on tourne, hop, on prend son volant et on change. Hop, allez, on avance. Et alors là, que faire? Alors, dans ce monde que j'ai vu, ce monde a beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Beaucoup de choses à nous apprendre. Là aussi, et si nous sommes là avec nos critiques perpétuelles, et le capitalisme, et etc., et alors, à critiquer tout, on ne peut pas prendre l'or. Quand je vous dis que Dieu ne voit pas le mal, c'est pas qu'il ne le voit pas. Mais qui sait que c'est inefficace de passer son temps à parler du mal. Ce qu'il faut, c'est de parler du bien. c'est d'être bienveillant et d'être bien disant, de bien voir. Et donc ça demande un regard, chercher l'or dans l'autre, chercher l'or dans cet enfant qui a des difficultés. Il ne grandira pas, force on lui dire qu'il est mauvais. Il ne pourra que grandir quand on pourra lui révéler, parce qu'il n'y a que d'autres parfois qui pourront lui révéler les petites beautés qui sont les siennes. Tout le temps. On ne peut s'en sortir que par la bonté et la douceur. Donc, un autre incontournable de ceux qui veulent passer de chenille à papillon, c'est la maîtrise de la langue. C'est de parler en langue nouvelle. Et parler en langue nouvelle, c'est pas seulement de faire du shabadabada, de parler en langue ou de... Parler en langue nouvelle, c'est un a priori de refuser la critique. J'aime bien le dire aussi pour nos nouveaux arrivants qui entendent cette parole. J'ai toujours été très marqué par la publicité, l'une des premières publicités qu'il y avait sur le sida. Il ne passera pas par moi. Je peux être le lieu où cette pandémie peut s'arrêter. Qu'au moins ça ne s'arrête pas par moi. Je mets des préservatifs. Je fais ce qu'il faut. Pourrions-nous mettre un préservatif à notre langue au lieu d'ensemencer de virus, de toutes sortes d'affaires, le monde entier, tout le temps, et une pandémie de sida, de critiques, de médisances, de... Bah, incroyable. Ça ne commence que par la capote. Il va falloir... Ah. Non. Si je pouvais trouver le moyen de dire du bien de cet homme-là, si je pouvais trouver, si dans nos échanges on pouvait chercher continuellement ce qui va pouvoir aider à construire, c'est tellement dur de construire, c'est tellement...